autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Antonio Fischetti.
Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui avec Jérémy Besset à la réalisation pour un voyage sur la géante du système solaire, Jupiter. Les Romains en faisaient le dieu du ciel. Elle est formée de gaz et pourtant 300 fois plus massive que la Terre. Mais de quoi est-elle vraiment faite? Que nous apprend-elle sur le système solaire? La sonde Juno, qui vient d'entamer son troisième tour de Jupiter, nous révélera peut-être les mystères de cette planète. Une exploration essentielle pour comprendre nos origines, car la Terre ne serait pas là sans Jupiter. Elle est la première planète qui s'est formée autour du Soleil, ce qui a influencé la création de toutes les autres. En plus, elle protège la Terre des astéroïdes qui pourraient bombarder le plancher des vaches. De la mythologie à la science d'aujourd'hui, bienvenue sur Jupiter avec nos deux invités, James Lequeux et Thérèse Encrenat. Thérèse Encrenat, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astronome, spécialiste de l'étude des atmosphères planétaires.
Oui,
vous avez dirigé le département de recherche spatiale de l'Observatoire de Paris.
Oui.
Donc vous êtes donc une spécialiste de Jupiter.
En partie, oui.
En partie d'autres planètes aussi ou
oui,
vraiment
aussi,
de Jupiter
Non, je ne suis pas sectaire, en fait. J'ai
D'accord.
travaillé sur les atmosphères de toutes les planètes.
Mais les atmosphères, c'est ça le point commun.
C'est les atmosphères, exactement.
James Lequeux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astronome honoraire à l'Observatoire de Paris. Vous avez aussi, entre autres, dirigé la station de radioastronomie de Nancy et l'Observatoire de Marseille.
Oui.
Et vous vous consacrez aujourd'hui surtout à l'histoire de l'astronomie, hein.
Oui, histoire et à la vulgarisation aussi de l'astronomie. Oui.
Alors justement, vous avez publié de nombreux ouvrages, dont Ensemble, aux éditions Belin, à la rencontre des comètes, l'exploration des planètes également. Donc James Lequeux, Thérèse Encrenat, vous venez de publier un très bel ouvrage qui s'appelle « Jupiter, la conquête d'une géante », toujours aux éditions Belin. Donc ce sont, alors pour ceux qui ne connaissent pas cette belle collection, ce sont des ouvrages très joliment illustrés, avec beaucoup de photos, de dessins, qui s'adressent à un très large public. Hein. Comment est venue l'idée de consacrer un livre à cette planète mystérieuse, Jupiter ?
Eh bien, quand on observe l'histoire, en fait, on comprend que la planète Jupiter a joué un rôle extrêmement important depuis l'époque de Galilée, en fait.
Galilée, on y viendra, Galilée qui a observé les premiers satellites, vous allez nous raconter
et
ça.
Voilà, donc ça a été une première étape très importante. Et puis ensuite, l'observation a continué, s'est développée avec les nouveaux moyens, et on a découvert que c'était une planète absolument fascinante.
Mais déjà, ce qui est intéressant, c'est que même quand on n'est pas astronome, on peut la voir très facilement. James Lequeux, oui, c'est la plus visible du ciel.
Oui, elle est très facile à voir à l'œil nu, même à Paris, à condition qu'il n'y ait pas trop de lumière autour. C'est l'astre le plus brillant du ciel avec Vénus, mais Vénus est toujours pas loin du Soleil, donc on arrive assez bien à la distinguer.
Donc si on lève les yeux au ciel, la nuit, on cherche l'astre le plus brillant, et c'est Jupiter.
Quand il veut bien être là, parce qu'il n'est pas là tout le temps.
Et cela aussi bien dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, puisque nous sommes écoutés par beaucoup de gens de l'hémisphère sud également.
C'est-à-dire qu'on regarde vers le nord dans l'hémisphère sud et vers le sud dans l'hémisphère nord, voilà.
Voilà, donc la plus brillante, la plus grande également. Rappelons donc, à partir du Soleil, on a les planètes suivantes, Mercure, oui. Vénus, la Terre, Mars. Et puis, au-delà d'une ceinture d'astéroïdes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'il y a des planètes constituées de roches, qui sont solides, et des planètes constituées de gaz. Donc Jupiter, c'est du gaz.
Oui, absolument. Oui, et on peut assez facilement comprendre pourquoi. Parce que, en fait, le principe de base, c'est que les planètes se sont formées dans un disque protoplanétaire.
Et protoplanétaire, c'est-à-dire avant la constitution des planètes.
Et elles se sont formées à partir de particules solides. Si vous êtes près du Soleil, la température est élevée. Les seules particules solides, ce sont ce qu'on voit, les silicates, les roches, les métaux. Mm-hmm. Vous faites des planètes qui sont petites et denses.
Oui, donc elles sont plus loin du Soleil, ces planètes gazeuses. Hein.
Oui, exactement. Parce que la température est plus basse. C'est ça.
Froid là-bas. Hein.
Voilà, c'est ça la différence. Et les molécules les plus abondantes sont sous forme de glace.
Donc il n'y a aucune chance en tout cas d'y trouver de la vie, hein, puisque les conditions sont très extrêmes. Alors quelle température,
moins
quelle pression?
150 degrés Celsius, oui, c'est très très froid. C'est très très froid, Jupiter.
Oui, c'est pas très hospitalier.
Oui, c'est pas hospitalier du tout.
Même pour nous, pour y aller en voyage.
Et plus c'est froid encore.
C'est
Saturne est encore plus froid.
C'est pas du tout hospitalier comme Mars en tout cas.
Oui.
On peut pas y mettre les pieds déjà parce qu'il n'y a pas de sol. Ensuite, parce qu'il fait très froid.
Il fait très froid.
Mais bien qu'elle soit constituée de gaz, elle est très massive, hein, beaucoup plus grosse et plus lourde.
Oui.
Finalement, le gaz, on pourrait croire que c'est quelque chose de léger, mais en fait, cette planète est très très lourde.
Oui, elle est 318 fois exactement plus lourde que la Terre. Hein. C'est vraiment énorme. Hein. C'est un millième du Soleil quand même. Oui, c'est pas, par rapport au Soleil, c'est quand même pas grand-chose, Jupiter. Mais par rapport à la Terre, c'est énorme.
Oui, vous écrivez dans votre livre qu'elle contient elle seule plus de 70% de la masse totale du système solaire.
Ben oui, à part le Soleil.
Par le Soleil, ce qui est énorme. Donc, il y a de l'hydrogène, de l'hélium, surtout. Alors, écoutons ces étranges sons qui ont été rapportés par la sonde Juno, qui, en ce moment même, est en train de tourner autour de Jupiter, hein, qui vient d'entamer son troisième tour de Jupiter. Donc, précisons tout de suite qu'il n'y a pas de son dans l'espace. Hein, ce sont des ondes radio transformées en ondes sonores. Comment on peut expliquer qu'il y ait des sons dans l'espace, hein, puisqu'il n'y a pas d'air?
Alors, ce n'est pas des sons, en fait. Ce sont des ondes radio qui sont transformées en laboratoire, si vous voulez, en ondes sonores, de manière qu'on puisse entendre quelque chose.
Hein. Oui.
Alors, ces ondes sont créées par des électrons, c'est-à-dire des particules chargées de très haute énergie qui circulent dans le champ magnétique de Jupiter.
Puisqu'il y a un champ magnétique sur Jupiter, comme sur la Terre.
Comme sur la Terre. D'ailleurs, la Terre, si on l'écoutait de l'extérieur, on entendrait des sons du même genre. Vous voyez, ce serait des ondes radio qu'on pourrait transformer en son de la même manière.
Donc, Thérèse Ancona, vous êtes impliquée dans cette sonde Juno. Vous travaillez avec.
Oui, je suis dans un laboratoire qui est effectivement impliqué dans deux des expériences. L'une, donc, c'est le spectromètre infrarouge qui s'appelle.
Qui sert à quoi, en fait?
JIRAM. Il s'appelle JIRAM. En fait, il mesure dans l'infrarouge proche, il observe à la fois les aurores, parce qu'il y a des aurores sur Jupiter.
Comme des aurores boréales, celles qu'on peut voir sur Terre.
On y reviendra peut-être. Et puis, ils sondent assez profond dans l'atmosphère de Jupiter, à une longueur d'onde particulière qui permet de sonder donc, à un niveau de plusieurs barres.
Donc le but, c'est de comprendre la constitution hein, de
tout
cette planète, la composition, de quoi elle est faite, quelle est son origine.
Et puis sa dynamique aussi. Sa dynamique qui est très compliquée et très mal connue.
C'est-à-dire comment...
La circulation.
La circulation des vents, en fait, puisqu'il y a des vents.
Les mouvements des masses d'air les unes par rapport aux autres, etc.
Donc on y reviendra, on va comprendre pourquoi Jupiter est un importante, hein. Mais Jupiter a aussi une importance dans la mythologie. Hein. Les Romains en faisaient le dieu du ciel, l'analogue de Zeus pour les Grecs, hein, un roi des dieux en somme. Écoutons Jean-Maurice de Montrémy, un journaliste écrivain, auteur de Jupiter et la puissance de Rome, qui était interviewé donc sur France Inter.
Les premiers fondateurs de Rome étaient extrêmement violents, ils se disputent tout le temps, c'est extrêmement violent, il y a des guerres incessantes, ça se passe mal et il y a vraiment une violence dans la cité. Alors Numa Pompilius, le deuxième roi, décide qu'il faut que ça s'arrête, il faut donc qu'on trouve un règlement et puis il faut canaliser cette violence. Et justement, il va rencontrer dans les bois, qui sont un monde un peu sauvage étant à côté de Rome, il va rencontrer cette mystérieuse nymphe et déesse Égérie qui l'éclaire sur beaucoup de choses, elle est très au courant de beaucoup d'affaires, elle lui fait comprendre que c'est parce que Jupiter, et qui est le grand dieu, n'est pas canalisé. Jupiter, c'est le tonnerre, la foudre, c'est une violence inouïe, c'est quelque chose qui vous tétanise, c'est quelque chose enfin, c'est épouvantable. Et on laisse ce Jupiter sans l'avoir canalisé, il faut lui offrir un sacrifice. Et chacun le sait, si on offre un sacrifice, on va le calmer. Alors Numa Pompilius s'en va voir chercher Jupiter pour lui parler. Jupiter va accepter de signer un contrat très important, c'est-à-dire qu'il va faire tout ce qu'il veut lui dans le ciel avec ses dieux, mais avec Rome, ils ont établi un contrat. Ce contrat est scellé par un territoire qu'on donne à Jupiter. Sur ce territoire, au sommet d'une colline, on met un temple, le Capitole, et à partir de ce moment-là, Jupiter est le garant de toutes les lois romaines. C'est lui théoriquement qui approuve les lois, mais c'est aussi lui qui doit faire que les lois soient respectées. Et au fond, l'installation de Jupiter, c'est le début de l'ordre.
Autour de la question, nous parlons aujourd'hui de Jupiter. Donc, James Lequeux, vous êtes astronome, mais vous parlez aussi de cette importance mythologique de Jupiter. Comment expliquer que cette planète ait fait l'objet d'autant de mythes et de cultes ?
C'est parce qu'elle c'est la plus brillante. C'est la plus brillante des planètes. Et les planètes ont été très vite repérées comme se déplaçant dans le ciel par rapport aux étoiles. Et ça, ça a beaucoup intrigué les hommes depuis les temps préhistoriques. Alors, il se trouve que Jupiter a été la planète qui a été la mieux étudiée par les Chaldéens, Mésopotamiens, etc. Ils ont établi des tables qui permettent de prédire sa position d'une façon assez propre.
C'était
un très beau travail. Vu les connaissances d'époque, c'était un très beau travail.
Donc dans votre livre, donc je rappelle le titre, Jupiter, la conquête d'une géante, vous parlez aussi des références dans la littérature, les fables de La Fontaine, Isaac Asimov, l'écrivain de science-fiction qui imagine que des extraterrestres achètent Jupiter pour y installer un espace publicitaire géant. Également, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, on a aussi une référence à Jupiter. Donc depuis les temps les plus anciens jusqu'à aujourd'hui, en fait, cette fascination maintient.
Cette planète a toujours fasciné l'homme, et surtout depuis Galilée. C'est parce que
on va y revenir à Galilée. Mais alors, revenons un petit peu à la physique. Alors, Thérèse Ancrenat, si on revient à la physique, sur Jupiter, il y a quoi ? De l'hélium, de l'hydrogène, mais aussi de la vapeur d'eau.
Oui, en fait, il y a essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium. C'est pour ça d'ailleurs que sa densité est assez faible, malgré son très gros volume. Et en fait, c'est parce que ce noyau de glace à partir de laquelle elle s'est constituée a été suffisamment massif pour capturer par gravité le gaz environnant. Ce qui n'est pas possible sur une planète tellurique parce qu'elle n'est pas assez massive.
Une planète tellurique, c'est-à-dire composée de roches.
Oui, c'est ça, les rocheuses.
Ouais. Pourtant, le gaz est moins dense, mais comme il y en a tellement, en fait, elle est plus lourde.
Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que le noyau de gaz, il fait 10 fois la masse terrestre. Et à ce niveau-là, vous pouvez capturer par gravité le gaz environnant. Et vous fabriquez comme ça des planètes géantes qui sont formés essentiellement d'hydrogène et d'hélium.
Mais quand on observe Jupiter, très tôt on a observé, au télescope, Jupiter, on voit des taches, des bandes parallèles, donc ça pourrait
absolument être mystérieux.
Elles viennent d'où ces bandes et ces taches rouges ?
Il n'y a pas que de l'hydrogène et de l'hélium, sinon vous avez raison, on ne verrait rien du tout. En fait, il y a d'autres constituants qui sont l'ammoniac, qui condense, et ce sont les condensations, les nuages d'ammoniac qui donnent la couleur jaune ou rouge que l'on voit sur Jupiter.
Donc il y a des taches. Ces taches sont assez mystérieuses puisque finalement elles ne bougent pas.
Ce sont des tourbillons dont on comprend assez mal l'origine.
Comme des cyclones sur Terre.
Oui, c'est ça.
Mais comme des cyclones qui seraient toujours au même endroit.
Oui, enfin certains se déplacent.
Certains se déplacent.
Oui, certains se déplacent.
Mais c'est encore un sujet de recherche. On ne sait pas encore tout expliquer.
Absolument.
Donc nous parlons aujourd'hui de Jupiter. Petit voyage, cette fois sonore, avec le groupe Jupiter et Okoes qui interprète Mousse en dessous.
My way, yo.
le groupe Jupiter et Oquest, groupe congolais. Et donc revenons cette fois dans l'espace, hein, avec Jupiter, la planète. Depuis le début de l'émission, vous nous parliez de Galilée. Alors Galilée a été le fameux savant, hein, du XVIIe siècle, a été le premier à vraiment découvrir les satellites de Jupiter. Vous allez nous raconter justement en quoi cette découverte est révolutionnaire.
Alors Galilée s'était procuré une espèce de longue vue qui venait d'être inventée en Hollande. Et il a eu l'idée, il n'était pas le seul d'ailleurs, de la braquer vers le ciel. Mais comme il était très très bon, il a vu des choses qui n'avaient jamais été vues auparavant, malgré le fait que son instrument ait été très primitif en fait. Donc il a vu beaucoup de choses, les montagnes sur la Lune, les phases de Vénus. Et autour de Jupiter, il a vu quatre petites étoiles, qu'il ne savait pas ce que c'était.
Il ne savait pas encore que c'était des satellites.
Et il les a vus se déplacer, il a compris qu'elles tournaient autour de Jupiter. Alors ça lui a rappelé le modèle de Copernic du système solaire.
C'est-à-dire, il faut d'abord se replacer dans le contexte. À l'époque, hein, à cette époque-là, le modèle dominant, c'était celui qui consiste à dire que la Terre est immobile au centre de l'univers. Et puis, il y a quelqu'un qui s'appelait Copernic, hein, qui a dit « Ah non, c'est pas comme ça que ça se passe. »
C'est l'inverse, c'est la Terre qui tourne.
Mais ça n'avait pas encore été prouvé.
Ça n'avait pas été prouvé. Bah, ça n'était pas encore prouvé par Jupiter, mais quand même, il y avait une analogie qui a frappé Galilée. Il dit, puisqu'il y a des planètes, il appelait ça des planètes ou des étoiles, qui tournent autour de Jupiter, pourquoi nos planètes, à nous, elles ne tourneraient pas autour du Soleil?
Oui, c'est-à-dire, en fait,
il a
observé des mouvements bizarres qui ne pouvaient s'expliquer que dans le modèle de Copernic, en fait.
Absolument, le système Jupiter, c'est un petit système solaire en miniature. C'est comme ça qu'il l'a conçu. C'était vraiment une révolution dans l'esprit de l'époque.
Hein, puisqu'à ce moment-là, on s'est dit, c'est une démonstration du fait que la Terre tourne autour du Soleil et non pas l'inverse, comme on le pensait en fait.
C'était une démonstration par analogie. C'est pas vraiment une démonstration scientifique. Disons, c'est une analogie.
Une observation visuelle.
Mais quand même, c'était très frappant. Il
y avait une analogie entre le système Terre-Lune et le système Jupiter quatre satellites galiléens.
Mais à ce moment-là, ça a dû remettre totalement en question le dogme de l'Église.
D'ailleurs, ça a créé quelques ennuis à Galilée, comme on sait.
C'est à cause de Jupiter, finalement, qu'il a été obligé d'abjurer.
Absolument.
C'est à cause de cette observation. Donc, depuis cette époque, alors vous parliez des satellites galiléens.
Ce sont ces quatre satellites relativement gros et relativement proches de Jupiter, qui s'appellent donc Io, Europe, Ganymède et Callisto, et qui ont chacun une nature extrêmement différente.
Donc c'est-à-dire, c'est un peu comme nos lunes, hein, comme notre lune à nous qui tourne autour de la Terre, là-bas, il y en a quatre.
Ils sont plus gros que la Lune.
Mais en fait, des satellites de Jupiter, il y en a beaucoup plus, hein, on apprend dans votre livre. Alors pourquoi ces quatre-là, précisément ?
Alors ces quatre-là sont particulièrement gros, particulièrement proches de la planète, et alors ils ont des caractéristiques tout à fait uniques. Par exemple, prenez le premier, Io. Io est relativement près de Jupiter, tellement près qu'il est le siège d'un volcanisme actif.
Oui, on y reviendra justement sur la composition des satellites de Jupiter. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ces mouvements en fait, d'aller-retour un peu bizarres observés par Galilée ont été une preuve de ce modèle copernicien qui a été révolutionnaire. Donc on se retrouve après le flash d'infos autour de la question « Pourquoi étudier Jupiter ?» avec nos deux invités, James Lequeux et Thérèse Encrenat, pour leur livre « Jupiter, la conquête d'une géante » aux éditions Belin. Rendez-vous après le flash.
Les grandes voies d'Afrique. Autour de la question. Antonio Fischetti.
Bienvenue à vous qui nous reveniez pour cette deuxième partie d'Autour de la question « Pourquoi étudier Jupiter ?» avec James Lequeux et Thérèse Encrenat, deux astronomes qui viennent de publier aux éditions Belin « Jupiter, la conquête d'une géante », un très beau livre, très joliment illustré avec plein de photos, de dessins. Donc nous parlons de cette planète
géante, mystérieuse, qui a influencé toute la création du système solaire, qui a aussi suscité des mythes qui depuis très longtemps, depuis l'aube de l'humanité, on pourrait le dire, hein, et puis qui a aussi influencé les cinéastes. Partons en voyage spatial et cinématographique avec Stanley Kubrick, 2001, Odyssée de l'espace.
Maintenant que vous entrez dans l'orbite de Jupiter et que le reste de l'équipage a été réanimé, voici cet exposé. Il y a 18 mois, a été découverte la première preuve formelle de l'existence d'une forme de vie intelligente extraterrestre. C'est un monolithe noir enfoui à 15 mètres sous le sol lunaire, près du cratère Tycho. À l'exception d'une onde extrêmement puissante qu'il émet en direction de Jupiter, ce monolithe, qui a la forme d'un parallélépipède et dont l'âge a été évalué à 4 millions d'années, est resté depuis 18 mois complètement inerte. Son origine et son but sont encore aujourd'hui un mystère total.
2001, Odyssée de l'espace, un film de 1968. C'était de la science-fiction, puisque à cette époque-là, l'être humain n'était pas encore allé sur Jupiter à travers des sondes. Hein. Il a fallu attendre le milieu des années 70, hein, la première sonde Pioneer 10 qui va sur Jupiter.
Oui. Qui veut Elles étaient deux sœurs, d'ailleurs. À l'époque, la NASA faisait tout en double pour éviter les accidents.
Deux sœurs, c'est-à-dire deux sondes. Hein, on parle de
redondance,
sondes.
Oui. Oui. Donc, Pioneer 10 et 11, elles sont parties vers 74,
72,
je crois.
72, elles Pioneer sont... 10, et, oui. Et l'année suivante, Pioneer 11.
Mais en même temps ou séparément?
Oui, donc séparément. Séparés par
des orbites différentes.
Oui.
Donc pour la première fois, donc on envoyait une sonde sur Jupiter, et d'ailleurs c'était aussi la première fois que sur cette sonde il y avait une plaque à destination d'éventuels extraterrestres.
Exactement.
De quoi il s'agissait alors?
Effectivement, c'était pour la première fois donc une sonde allée vers le système solaire extérieur. Et déjà, disons, la quête de la vie extraterrestre, c'était dans les esprits. Et d'où cette plaque qui était censée expliquer à des extraterrestres ce qu'il y avait sur Terre. Alors, je ne me rappelle plus très bien ce qu'il y avait
sur
cette plaque.
Oui, il y avait un dessin avec un homme.
C'est assez naïf.
Il y avait
un
homme et une femme. Voilà.
Alors, depuis, on a envoyé d'autres sondes, hein, oui. Les sondes Voyager, des missions Galileo aussi. Et aujourd'hui hein, donc, une nouvelle sonde qui est en train de tourner autour de Jupiter, la sonde Juno.
Oui.
Alors, quelles sont les différences entre ces différentes sondes et qu'apportent la sonde actuelle?
Alors, déjà, on a commencé par des survols, ça c'était normal. Il y a eu donc Pioneer 10 et 11. Il y a eu une mission extrêmement fructueuse qui s'est appelée Voyager. Là aussi, deux véhicules, Voyager 1, Voyager 2, qui ont profité d'une configuration spéciale des quatre planètes géantes pour faire le survol des quatre planètes. Un Voyager 2 a survolé successivement Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. C'était un exploit, ça se produit tous les 180 ans, je crois, cette configuration-là. Et puis après, Galileo, c'était plus ambitieux, donc un orbiteur autour de Jupiter et une sonde de descente qui a pénétré dans l'atmosphère et qui a renvoyé des signaux jusqu'à une pression de 22 bars, je crois. Ce qui était un véritable exploit, aussi bien technologique que scientifique.
Oui. Et aujourd'hui, alors, cette sonde Juno, qu'est-ce qu'elle fait alors?
Alors, elle est plus... Juno est spécifique de certains problèmes qu'on aimerait comprendre. Et l'un d'eux, c'est mieux comprendre la composition interne de la planète.
Mais elle va donc tourner à combien de fois? Je crois 36 fois
autour de
Jupiter. Alors
ça dépend de la longueur de l'orbite. Il y a eu un changement d'orbite l'été dernier.
Donc elle a été lancée en 2011. Hein,
oui.
Elle a mis 5 ans pour se rendre sur Jupiter.
Oui.
Elle va rester combien de temps à peu près?
A priori, elle devait rester 2 ans, mais elle va rester plus parce que l'orbite a été changée pour des raisons de sécurité. Et donc, le même résultat scientifique sera obtenu dans un temps un peu plus long.
Et ensuite, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va revenir sur Terre ou pas?
Non, ça sûrement pas. Il est possible qu'on la précipite dans l'atmosphère de Jupiter. C'est une possibilité. J'avoue que je ne sais pas exactement si les plans sont
définis. Ça ne doit pas être décidé, mais enfin, elle ne reviendra pas.
Alors, ce qui est intéressant avec Jupiter, c'est que, on l'apprend dans votre livre, hein, c'est une planète essentielle, hein, la première à s'être formée il y a environ 1 million d'années. Hein, et grâce à son interaction avec Saturne, elle a contribué à former ce système solaire tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, sans Jupiter, eh bien, nous serions peut-être pas là.
Oui, peut-être. Alors ça, c'est un. On a cru longtemps que le système solaire s'était formé comme on le voit aujourd'hui. Eh ben, c'est absolument pas vrai. Ça n'est même pas possible parce que. Qu'est-ce qui s'est passé? On part d'un grand nuage de gaz et de poussière. Ce nuage s'effondre sur lui-même par gravité. La partie centrale forme le Soleil. Et autour, comme tout ça, ça tourne. Vous voyez, autour, vous avez une espèce de disque qui se développe où il y a du gaz, des poussières. Et c'est là-dedans que vont se former les planètes.
Oui.
Et alors, la première planète à s'être formée, c'est Jupiter, qui s'est formée un peu plus près du Soleil qu'elle l'est maintenant, d'ailleurs. Et puis, elle va à interagir par gravité avec le disque. Elle ne va pas rester où elle s'est formée, parce que le disque est encore là, le disque est assez massif, et il interagit gravitationnellement avec Jupiter. Et ça va amener Jupiter vers l'intérieur du système solaire. Il va aller jusqu'à l'orbite de Mars actuelle. Alors Saturne se forme un petit peu plus loin, et Saturne aussi va aller vers l'intérieur du système solaire.
Saturne, c'est aussi une grosse planète.
C'est une grosse planète qui est un peu moins grosse que Jupiter.
Voilà, mais donc les deux semblables. Vont entrer en interaction.
Alors, elles entrent en interaction parce qu'il y a un moment où elles vont se trouver en ce qu'on appelle en résonance. C'est-à-dire que Saturne va faire 3 tours autour du Soleil pendant que Jupiter en fait 2. Alors là, il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que les deux planètes vont rester, disons, couplées ensemble, et elles vont s'en aller vers l'extérieur du système solaire. Vous voyez, elles étaient d'abord venues vers l'intérieur, et ensuite, elles se déplacent vers l'extérieur. Et ça s'est passé à peu près 100 000 ans après le début, après la formation de Jupiter. C'est-à-dire tout de suite, en fait. Parce que 100 000 ans, qu'est-ce que c'est par rapport aux 4,6 milliards d'années qui nous sépare de la formation du Soleil, c'est rien du tout. Tout ça est allé très très vite.
Donc c'est-à-dire, c'est vraiment une planète essentielle dans absolument. La composition du système solaire. La Terre ne serait pas là, enfin en tout cas telle qu'on la connaît, pas exact. Là où
et
elle
alors,
est.
Où...
Et la vie ne serait peut-être pas apparue, finalement, sans Jupiter.
Et alors là, après, au bout, ils vont se retrouver dans une autre configuration où Saturne va faire 2 tours et Jupiter 1. Avant, c'était 3-2. Maintenant, c'est 2-1. Et alors là, ça va être catastrophique. Le système solaire va se trouver complètement démantibulé. Et vous allez avoir ce qu'on appelle le grand bombardement. C'est là que il y a des tas de choses qui sont précipitées sur la Terre, la Lune, les planètes, etc. Et que tous les cratères de la Lune se sont formés. Tout ça, c'est encore à cause de Jupiter.
Alors, Jupiter, donc, on l'a dit, aucune chance d'y rencontrer de la vie. Mais en revanche, Jupiter détient le record du nombre de satellites dans le système solaire. 67 satellites découverts, donc des gros comme les plus gros comparables à la Lune, à notre Lune, à nous, les plus petits de l'ordre d'un kilomètre. Et ces satellites, alors, sont très divers. Il y a tout un tas de choses dessus. Vous parliez de volcanisme, de l'eau peut-être même.
Alors les gros satellites se sont formés en même temps que Jupiter, comme de la même manière que les planètes se sont formées autour du Soleil. Oui. Les petits ont vraisemblablement été capturés plus tard. C'était des astéroïdes qui traînaient dans le coin et que Jupiter a récolté grâce à son énorme champ de gravité.
Oui, Thérèse Ancrana, vous nous parliez alors de satellites Io, Europe. Alors, qu'est-ce qu'on peut y trouver?
Oui, alors ce qu'on peut dire sur Io, c'est que donc, du fait de la présence, de sa proximité à Jupiter, il est, disons, le siège d'un volcanisme actif. C'est-à-dire que pour des raisons liées à son orbite qui est légèrement excentrique et une résonance avec l'interaction avec Europe, en fin de compte, sa surface est en permanence remodelée.
Et vous dites aussi qu'on pourrait peut-être trouver un océan liquide sous la surface d'un autre
Europe,
satellite.
Donc c'est le deuxième. Europe a cette caractéristique qu'il est un peu plus loin que Io de Jupiter. Donc il n'a pas ce phénomène d'énergie interne très forte, mais il y en a quand même un peu. Suffisamment pour que l'eau... C'est un satellite glacé, au départ. La surface d'Europe, comme Ganymède et Callisto, c'est de la glace, d'eau. Mais comme il y a une source d'énergie interne liée à la présence de Jupiter, cette eau pourrait être liquide à l'intérieur d'Europe.
Est-ce qu'on pourrait peut-être y trouver de la vie, alors?
La question est ouverte. Maintenant, pour aller voir, il ne faut pas rêver. Quand on pense au temps qu'il a fallu pour forer en Antarctique le projet... Comment s'appelait-il, la Concordia, là? On a mis 10 ans pour faire 3 km. On ne sait pas quelle est l'épaisseur de la couche d'Europe.
Plus épais.
Et on est à 5 unités astronomiques.
Et il y a peut-être d'autres satellites encore inconnus qu'on pourrait découvrir. Mais comment se fait... C'est ce qu'on apprend dans votre livre. Hein, mais comment se fait-il qu'on ne connaisse pas encore tous les satellites?
Mais parce qu'il y en a certainement qui sont plus petits. Et qu'on a... Il n'y a pas de limite au diamètre.
On arrive à voir ceux qui ont un kilomètre de taille. Mais enfin, ceux qui sont plus petits, on a du mal à les voir. Même Galiléo n'y arrivait pas. Hein.
Et il n'y a pas de raison qu'il n'existe pas. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une limite à la taille des satellites.
Alors, vous qualifiez Jupiter de berger des astéroïdes. Hein. Donc, vous venez de dire que Jupiter est importante parce qu'on lui doit aussi la présence de la Terre. Mais Jupiter nous protège de ces bombardements.
C'est une pluie de météorites. Et le fragment que vous nous annoncez... Il est quelle taille ?
C'est ce que nous appelons un exterminateur. Rien n'y survivra, même pas une bactérie.
Jupiter joue parfois le rôle d'un aspirateur à comètes. Cette comète, venant du fin fond du système solaire, frôle Jupiter d'un peu trop près. Elle est capturée par la gravité de la planète géante.
Thanks, Jupiter. You're awesome.
Donc Jupiter, un aspirateur à comètes qui nous protège,
absolument.
C'est ça, Thérèse Encrenal, hein ?
Oui, on en a même eu une démonstration en 1994, quand une comète qui était en orbite autour de Jupiter s'est approchée un peu trop près à son passage à proximité de la planète. Elle s'est fragmentée en une vingtaine de morceaux. Elle est repartie sur son orbite très elliptique, et 2 ans plus tard, les 20 morceaux se sont précipités dans l'atmosphère de Jupiter.
Donc elle est tellement massive qu'elle attire tout ce qui pourrait tomber sur Terre.
Aussi un astéroïde, c'est-à-dire un gros caillou qui est tombé sur Jupiter un peu plus tard, un peu après la planète, et qu'on a vu aussi.
Oui, puisque donc, vous écrivez que la chute d'un objet de plus d'un kilomètre de diamètre sur Jupiter intervient en moyenne toutes les quelques centaines d'années.
À l'échelle astronomique, c'est très fréquent.
C'est très fréquent, alors que sur Terre, tous les quelques millions d'années, c'est beaucoup moins fréquent.
Heureusement,
puisque en fait, la chute d'un objet de plus d'un kilomètre de diamètre sur Terre,
ça
serait une catastrophe mondiale, planétaire.
Absolument.
Donc c'est vraiment un protecteur. Soyons reconnaissants au Jupiter, vous l'écrivez dans votre livre. Donc alors, Jupiter, c'est un modèle aussi qui nous permet d'étudier les exoplanètes, les planètes hors du système solaire. Pourquoi ?
Eh bien, c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, on a découvert donc une quantité d'exoplanètes autour des étoiles proches. Et parmi ces exoplanètes, un grand nombre sont des planètes géantes.
Qui ressemblent à Jupiter, en fait.
Disons que pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Et je pense qu'il y a une immense variété dans ce qu'on trouve dans les exoplanètes. C'est d'ailleurs extrêmement surprenant. Variété dans les orbites. Certaines sont extrêmement elliptiques. Elles sont souvent inclinées quand on a un système à plusieurs planètes. Elles ont des densités qui sont très différentes des nôtres. Et pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose.
Mais vous parlez de Jupiter chaud et Jupiter froid.
C'est notre jargon.
Ça veut dire quoi ?
Le Jupiter chaud, c'est une exoplanète géante qui est proche de son étoile. Comme elle est proche de son étoile, l'étoile irradie la planète et la température est très élevée.
Oui, et Jupiter, en fait, à l'inverse, il fait très froid.
Voilà, parce que Jupiter est très loin de son...
Vous disiez à moins 150 degrés à peu près.
Quelque chose comme ça, oui.
Oui. Et alors aussi, vous écrivez que l'étude de Jupiter est une porte ouverte sur l'exobiologie, c'est-à-dire la biologie éventuelle, c'est-à-dire les organismes vivants sur d'autres planètes, alors du système, hors du système solaire.
On aimerait comprendre tous ces systèmes de planètes qui tournent autour des étoiles voisines. Apparemment, toutes les étoiles ont des planètes autour. On en est assez convaincu à l'heure actuelle. Mais tous ces systèmes sont extrêmement différents du système solaire. Le système solaire paraît presque être une exception. C'est parce qu'il y a deux grosses planètes, Jupiter et Saturne, qui se comportent d'une façon très bizarre. Il y en a peut-être d'autres du même genre, mais enfin, on n'en a pas encore trouvé qui ressemblent au système solaire. Alors là-dedans, dans ces planètes, il y en a qui sont peut-être dans une zone où il fait ni trop chaud ni trop froid, où il y a de l'eau, et ça s'appelle les planètes qui sont dans la zone habitable. Alors c'est là-dedans qu'il faudra éventuellement rechercher de la vie.
Autour de la question, nous sommes sur Jupiter, petit voyage musical, le groupe Ezekiel qui interprète Zero Gravity. Autour de la question, pourquoi étudier Jupiter ? Nous venons d'entendre Ezekiel Zero Gravity. Donc, revenons sur Jupiter. Thérèse Encrenat, donc vous êtes astronome et vous êtes spécialisée dans l'étude de l'atmosphère des planètes. Et puis, alors, sur Jupiter, il y a un mystère, c'est cette tache rouge, très facilement observable au télescope. Alors vous cherchez à comprendre d'où elle vient et...
Oui, on peut dire que cette tache rouge intrigue les astronomes depuis les premières observations, puisque Cassini déjà l'a observé.
C'est-à-dire...
Cassini, donc, c'était il y a 3 siècles. C'était à l'Observatoire de Paris. C'est celui qui a fait les premières belles images, c'était un excellent observateur. Il a fait des dessins, les premiers dessins, et on voit déjà sur ces premiers dessins la structure en bande et en zone qui est caractéristique de la planète, et puis cette grande tache.
Donc alors en fait, pour ceux qui n'ont jamais vu Jupiter, quand on le regarde, on a un cercle, ce cercle est composé de bandes alternativement claires, sombres, et puis un endroit donné, il y a une grosse tache rouge. Donc c'est une forme assez particulière.
Oui, alors déjà, les bandes et les zones, ces bandes parallèles, c'est simplement la conséquence d'une rotation rapide. C'est parce que la planète tourne très vite sur elle-même qu'on peut montrer assez facilement que ça génère ce système de bandes et de zones.
Il y a des vents, en fait, contraires, de direction contraire. Et donc, ça fait un peu comme un cisaillement des vents qui vont d'est en ouest et l'inverse.
Et plus la planète tourne vite, et plus le nombre de bandes et de zones est élevé.
Parce qu'on a ça sur la Terre. On a ça sur la Terre. On a quelques bandes sur la Terre. Vous avez, et il y a la bande interne près de l'équateur où se forment les alizés. Puis vous en avez, ça c'est la cellule de Hadley. En plus, vous avez une autre bande plus au nord. Et donc, en fait, dans la Terre, il n'y en a que 3 bandes.
Oui, mais si on regarde la Terre de l'espace, est-ce qu'on verrait la même chose ?
Peut-être quelque chose un peu dans le genre de Jupiter. Enfin, c'est plus difficile parce que vous avez les nuages mal foutus.
D'accord, en tout cas, sur Jupiter,
c'est le même phénomène, mais plus en exacerbé.
Sur Jupiter, c'est très géométrique, des bandes alternativement claires et sombres. Et puis, donc, cette fameuse tache rouge, alors ?
Alors, cette tache rouge, donc, il faut voir qu'elle est grande comme la Terre elle-même.
Oui.
Sachant que le diamètre de Jupiter, c'est 11 fois le diamètre de la Terre. Et c'est vraiment un gros phénomène dont on pense qu'il s'agit d'un... ce qu'on appelle un vortex, c'est-à-dire un tourbillon. L'équivalent d'un anticyclone. Une colonne de haute pression.
Mais pourquoi rouge?
Alors ça, c'est encore une autre raison.
Ouais, la planète rouge, hein, normalement, c'est Mars, en fait. Hein, oui, et pourquoi d'ailleurs Mars est rouge?
Ah, ça, c'est parce qu'il y a des oxydes de fer. Ça n'a strictement rien à voir.
Et sur Jupiter, alors?
Sur Jupiter, alors, on n'est pas très sûr, parce qu'il s'agit de composer des condensats, si vous voulez, des molécules qui ont condensé, des molécules qui ont condensé, des espèces de nuages et de brumes. Alors, il peut y avoir du phosphore, il peut y avoir des hydrocarbures complexes qui ont été irradiés par les rayonnements cosmiques. On n'est pas très sûr.
Mais en tout cas, ce qui est étonnant, vous le disiez, hein, c'est que cette tâche, grande comme la Terre, est très stable.
Absolument.
Alors que s'il s'agit d'un, ben, disons, d'un cyclone...
Ça ne dure pas longtemps.
Ça dure pas longtemps.
Alors... Ça fait trois siècles qu'elle est là, en tout cas. Elle a grossi, rétréci, etc. Elle se change de forme, mais elle est là depuis trois siècles.
Mais quelles sont les hypothèses pour l'expliquer?
On ne sait pas trop.
les spécialistes de dynamique essayent de générer des modèles par lesquels la grande tache rouge est alimentée par les petits vortex qui tournent autour, les petits tourbillons qui tournent autour. Mais enfin, je crois que c'est vraiment un domaine qui est en pleine recherche. On ne peut pas dire qu'on ait la solution.
Mais elle a récemment diminué, elle était très stable depuis trois siècles.
Et là, on ne sait pas pourquoi.
On ne sait pas pourquoi. Elle va peut-être disparaître, mais pour l'instant, elle rétrécit.
Oui, donc c'est donc un des mystères qui préoccupe les astronomes. Hein. Quelques mots justement, donc James Lecoe, vous êtes très impliqué dans l'histoire des sciences. Hein. On parlait de Galilée, hein, et puis alors moi j'étais très étonné par un chapitre de votre livre sur l'utilisation des satellites de Jupiter pour mesurer les longitudes et les sur Terre, alors sans entrer trop dans les détails parce que ça reste d'être un peu complexe, mais en gros pour mesurer les longitudes sur Terre, on s'est inspiré justement, on a utilisé
les satellites de Jupiter. Alors bon, qu'est-ce que c'est que les satellites de Jupiter? Ils passent derrière la planète de temps en temps. Et ce phénomène d'éclipse, vous voyez, la disparition du satellite quand il passe dans l'ombre de la planète, c'est visible en même temps sur toute la Terre.
Oui.
Tout le monde voit ce phénomène en même temps. Et ça donne un repère de temps, une sorte de repère de temps universel. Quand on compare ce temps avec le temps local dans différents lieux, eh bien, on peut déterminer les longitudes. C'est la seule manière... qu'on est
C'est-à-dire les distances
dans le sens est-ouest.
Donc, c'est en regardant le ciel, les satellites de Jupiter, qu'on a pu avoir une image précise, une cartographie précise de la Terre.
Absolument.
Donc, à ceux qui pourraient penser que l'astronomie ne sert à pas grand-chose, finalement, c'est une erreur totale, hein, puisque c'est l'observation des planètes et des étoiles qui permet de nous repérer, en fait.
Et Louis XIV s'en est plaint, parce qu'il a dit des savants qui ont fait la première cartographie convenable de la Terre, qu'ils avaient rétréci la France de 10%. Quoi. C'était pas acceptable. Son royaume était devenu plus petit. Oui.
Autre chose aussi, l'observation des satellites de Jupiter permet de mesurer la vitesse de la lumière. C'est encore plus étonnant, alors.
Alors ça s'est passé à peu près en même temps, à l'époque de Cassini, c'est-à-dire dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Eh bien, ces éclipses dont on vient de parler, on s'est rendu compte qu'elles arrivaient en retard quand la Terre s'éloignait de Jupiter, quand la distance de Jupiter à la Terre augmente, ces éclipses arrivent en retard. Et au contraire, quand la Terre se rapproche de Jupiter, elles arrivent en avance par rapport aux prédictions des éphémérides. Et Cassini en a conclu...
Donc l'astronome, Cassini,
tout à fait judicieuse, que c'était que la lumière mettait un certain temps à nous provenir de Jupiter. Il a même donné un chiffre pour ça. Mais au bout d'un moment, il n'y a plus cru, parce que ça marchait pour un satellite et pas pour les autres. Et finalement, c'est Römer qui s'est lancé, qui a publié le premier ce résultat, et on a retenu le nom de Römer. Römer, c'était un astronome danois qui se trouvait
à Paris. On avait donc une estimation précise de la vitesse de la lumière, 300 000 km.
Précise, c'est beaucoup dire.
Bon, enfin, disons une première estimation.
C'était pas mal pour l'époque. Parce qu'avant, on pensait
300 000 km par seconde, hein, rappelons-le. Hein.
On pensait que la lumière se propageait à une vitesse infinie, déjà. Personne ne pensait qu'elle avait une vitesse, vraiment.
Donc, en tout cas, voilà pourquoi l'étude de Jupiter est importante. Hein. Donc, vous dites aussi que le respect des anciens pour cette planète est finalement justifié d'une certaine façon.
Hein.
Donc, pour ce voyage au cœur de Jupiter, James Lequeux et Thérèse Ancrenat, merci.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de votre livre, hein, Jupiter, la conquête d'une géante aux éditions Belin.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
C'était Autour de la question, avec Jérémy Besset à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses. Rendez-vous demain, nous parlerons des microfossiles, de fabuleuses œuvres d'art qui nous racontent l'histoire de l'évolution à travers ces fossiles microscopiques. D'ici là, portez-vous bien, merci de votre fidélité et dans quelques instants, les infos sur la Radio Mondiale.
Nous contacter autour de la question @rfi.fr.
Bonjour à tous.